Destination Séville. Ce voyage nous est offert par le Musée des Beaux-Arts d'Orléans et plus particulièrement par Corentin Dury, conservateur des collections anciennes du musée et commissaire de l'exposition « Dans la poussière de Séville » sur les traces du Saint Thomas de Velázquez. Sur les traces, où va nous conduire Velázquez ? Qu'allons-nous découvrir de la Séville du tout début du XVIIe siècle ? Ce chef-d'œuvre, le Saint Thomas, nous livrera-t-il tous ses secrets ? Au fil de notre déambulation, certaines énigmes seront résolues, d'autres non. Laissons-nous porter, partons flâner et découvrir ce que nous livre ce parcours passionnant. Nous entrons donc dans le musée des Beaux-Arts d'Orléans, né à la Révolution. Ouvert au public de 1797 à 1804, puis refondé en 1823 à l'initiative du comte de Bismont, élu de la ville. Depuis lors, il se déploie dans l'hôtel des Créneaux, magnifique bâtiment Renaissance, situé à deux pas de la cathédrale. Nous pénétrons dans un spacieux hall d'entrée et empruntons sur notre gauche un escalier qui nous conduit au sous-sol. Nous entrons dans la première salle d'exposition et nous sommes plongés dans la poussière de Séville. Sur un mur d'un rouge sang se détache la reproduction d'une huile sur toile de 3 mètres de long intitulée « Vue de la ville de Séville depuis le quartier de Triana », conservée au Museo d'América et datant de la toute fin du XVIe siècle. Je vous propose de nous y attarder, car le peintre Alonso Sánchez Cuello nous livre ici une véritable image panoramique, dans un format monumental, 3 mètres de long, de ce qu'était Séville à la fin du XVIe siècle, justement lorsque naquit Velázquez. Au tout premier plan, sur toute la longueur du tableau, se déploie une frange de terre sur laquelle s'activent des hommes à pied, des hommes à cheval. L'effervescence se fait sentir sur cette berge fort animée. Dans une teinte bleutée, un méandre du Guadalquivir prend place. Il n'est qu'un point à l'horizon, à gauche du tableau. Il vient vers nous, il s'épaissit progressivement à mesure qu'il s'approche, pour devenir un large ruban d'eau qui lui aussi se déploie sur toute l'horizontale de la toile. Des embarcations de toute taille y sont figurées. Certaines à quai, d'autres en navigation. Des galions, des galères à voile et à rames décorées de fanions, des barques, dont certaines sont couvertes d'une voilure blanche. Au cœur de cette anse fluviale se niche Séville. Sur la rive située du côté de la ville, l'activité est fébrile également. Là encore, des hommes s'activent. Des spadassins et des soldats s'affrontent avec élégance et théâtralité. Nous assistons peut-être à des festivités. Tous nos sens sont en éveil. Une odeur de poudre à canon. Des salves accueillent à grand bruit l'arrivée des navires. Ici, des rondins de bois sont empilés. Les caisses entreposées, les marchandises s'amoncellent, tout juste déchargées ou prêtes à partir. À gauche, un pont à deux arches, noir de monde, El Puente de Triana, enjambe la courbe dessinée par le fleuve. Non loin de là, de nouveaux quartiers sortent de terre. Cette ville prospère, cette ville s'étend. Dans ce paysage, la façon dont l'artiste figure la vie dans sa quotidienneté n'est pas sans évoquer la manière des peintres nordiques. Du point de vue urbain et architectural, Les édifices qui se déploient en frise sur la rive la plus éloignée de nous sont facilement identifiables. Je ne pourrais pas tous vous les citer, mais à gauche, à contre-jour, l'édifice de la Sainte Inquisition. À droite, la Puerta del Arenal, récemment reconstruite par l'architecte Hernán Ruiz. Las Torres de la Plata y del Oro, les tours de l'argent et de l'or, ferment la muraille. La coupole ostentatoire de la maison des Jésuites domine un des quartiers les plus riches de la ville. La cathédrale, elle aussi, est un signe de pouvoir et de richesse. Elle cherche à rivaliser avec les plus grandes de la chrétienté. La lumière frappe la silhouette vertigineuse de sa giralda qui semble faire irruption hors du contre-jour dans lequel se trouve plongée la ville. Quelques décennies plus tôt, en 1568, l'ancien minaret de la grande mosquée de Séville, transformé en cathédrale il y a déjà plus d'un siècle et demi, a reçu en son sommet un clocher des mains de l'architecte Hernán Ruiz et une statue de la foi tournant sur son socle, au gré du vent, comme une girouette. Coulée en bronze par Bartolomé Morel, nous la distinguons clairement. La Giralda culmine à 104 mètres. Cet axe vertical qui contraste avec l'horizontalité qui domine la représentation conduit notre regard vers le haut. Là, des nuages blancs, tourbillonnants, figurés dans des diagonales dynamiques, viennent contraster avec le gris sombre du ciel et créer une atmosphère presque inquiétante, tourmentée. Le caractère pictural de ce paysage s'en trouve amplifié. Véritable document historique, cette vue panoramique est un témoignage des coutumes de l'époque, de l'économie florissante de la ville et de sa vitalité irrépressible. Elle nous fait voyager dans le temps. Elle nous plonge dans le brouhaha, le tumulte de ce port. On imagine le bruit des chantiers navals où s'activent charpentiers spécialisés, fabricants de cordages et de tonneaux, fondeurs de canons, muletiers, plongeurs. Près des tours de Triana, nous sommes saisis par l'odeur de biscocho, cette pâte cuite qui sert d'aliment de base aux marins lors de leur longue traversée. Depuis 1503, presque un siècle avant la naissance de Velázquez, la Casa de Contratación contrôle le commerce venu des Indes. Depuis le milieu du XVIe siècle et pendant une grande partie du XVIIe siècle, Séville est l'unique point de départ et d'arrivée des expéditions entre la Nouvelle-Espagne et la terre ferme. Nous dirions aujourd'hui que Séville est une plaque tournante du commerce international, en relation avec le Nouveau Monde, mais aussi avec Gênes, Anvers, Naples, Lorient. Pourquoi une telle position? Tout d'abord, les vents lui sont favorables. Les littoraux andalous, donnant sur l'océan Atlantique, permettent de profiter pour les voyages des alizés, du courant des Canaries, du Gulf Stream et des courants des Bermudes et des Açores. Moins accessible que Cadix, Séville n'en reste pas moins plus adéquate. En effet, située à l'intérieur des terres, au bout d'une voie fluviale de 80 km, Séville est à l'abri des attaques, notamment anglaises. Elle est aussi le lieu idéal pour exporter la richesse des terres sévillanes, le vin, l'huile d'olive. Séville, 150 000 habitants, quatrième ville d'Europe après Londres, Paris, Naples, est à la rencontre de deux mondes. Séville est la Puerta de América. Cette position économique, commerciale et même religieuse est unique dans le monde occidental. Les imports en or sont taxés à 30%. Les congrégations constituent le point de départ de l'évangélisation du Nouveau Monde. Sur place se côtoient administrateurs, membres de la cour, Grande Espagne, colonie de marchands, marchands génois, banquiers florentins, mais aussi des artistes italiens, flamands. C'est donc dans cette Séville cosmopolite que naît Velázquez en 1599. elle sera sans doute son meilleur maître. Dans la poussière de Séville, sur les traces du saint Thomas de Vélasquez. À ce stade, il y a sans doute une petite question qui vous titille. Est-on obligé d'aller au musée des Beaux-Arts d'Orléans pour marcher sur les traces de Vélasquez? Eh bien, en France, le choix est très limité pour contempler une œuvre de cet illustre artiste. En effet, seulement deux alternatives s'offrent à nous. Le musée des Beaux-Arts de Rouen, où est conservé un portrait de Démocrite, et ici, au musée des Beaux-Arts d'Orléans, où nous allons pouvoir admirer cette œuvre d'une grande rareté, datant de l'époque sévillane, le saint Thomas. Comment me direz-vous? Point de Vélasquez au Louvre? Eh oui, ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé de détourner ce saint Thomas en 1970, comme en atteste la réponse adressée au président du Conseil constitutionnel par le maire d'Orléans de l'époque, Roger Secrétin. Elle est affichée dans la seconde salle de l'exposition. Je ne résiste pas à vous en lire quelques extraits. La réponse est hélas, j'ai quelque ennui à vous la transmettre, négative. L'éventualité de voir partir d'Orléans le saint Thomas de Vélasquez, que tous les connaisseurs considèrent ici comme notre plus belle pièce, un peu comme notre Joconde, a soulevé de très vives et unanimes objections. Un petit peu plus loin, il ajoute « À la réflexion, je crois que même en poursuivant une politique de cohérence et de spécification plus affirmée des collections de province, il n'est pas souhaitable de laisser partir une pièce de grande qualité dont la réputation retentit sur celle du musée. » Il ne mâche pas ses mots. L'œuvre ne quitte pas les bords de Loire. Poursuivons notre enquête. Comment cette œuvre, d'une si grande rareté, est-elle arrivée à Orléans? Je crains de ne pouvoir apporter qu'une réponse partielle à cette question. En effet, tous les mystères de l'acquisition ne sont pas encore percés. Cette œuvre est arrivée de manière discrète, quelque part entre 1828 et 1843. Elle n'est pas inscrite dans les donations, mais probablement il s'agit d'un achat du comte de Bismont, l'un des pères fondateurs du musée, déjà évoqué en introduction. Le catalogue du musée, publié en 1843, mentionne « Un solitaire, appuyé sur un livre, tenant une lance de l'autre main, voici la description en quelques mots de notre tableau, attribué à Murillo. » Pourquoi Murillo? Nous sommes au XIXe siècle. Murillo est l'un des premiers grands maîtres espagnols du XVIIe, avoir été redécouvert en France. Chef de file de l'école de Séville, très en vogue à cette époque, il est célèbrement connu pour représenter les saints sous les traits de simples gens. En fait, quelques années plus tard, dès 1851, cette attribution est remise en cause. Mais la question n'est pas statuée. En 1920, tout bascule. La main du maître est définitivement reconnue. Nous devons cette découverte au jeune collectionneur et marchand d'art Roberto Longhi, qui deviendra d'ailleurs l'un des plus grands connaisseurs de son temps. Un œil, comme on dit. Roberto Longhi a alors 30 ans quand il découvre dans un coin du musée ce saint Thomas et qu'il l'identifie comme l'œuvre de Vélasquez. En 1927, Roberto Longhi publie un article fondateur consacré au tableau. Il pointe du doigt qu'il s'agit d'une œuvre de jeunesse, peinte à Séville, avant 1622, date du départ de l'artiste pour Madrid. Il y relate également le souffle naturaliste qui naît en Espagne, à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. Un phénomène similaire se produit en Italie et en France, à la même époque, nous y reviendrons. À partir de cette découverte, dès ces années 1920, le tableau prend une place majeure dans l'histoire de l'art. L'œuvre devient source d'inspiration. En 1996, l'auteur Pierre Michon demande à ce que ce chef-d'œuvre illustre la couverture de son roman « Vie minuscule ». Je le cite. « Ce Thomas de Velasquez me paraît l'image même de la voix qui parle dans les vies minuscules. Il est cramponné au livre de toutes ses forces, comme si le livre allait le sauver. Mais le livre devant lui, comme une barrière, est en même temps un obstacle. » Rappelons-nous de ces mots. Dans la poussière de Séville, sur les traces du Saint Thomas de Velasquez. Poursuivons notre parcours. Trop impatiente de vous le présenter, je vous propose de traverser sans nous arrêter les deux salles suivantes. Nous franchissons maintenant une arche pour pénétrer dans une vaste pièce où alternent arcades, alcôves et piliers. Les murs sont tantôt rouges, tantôt or. La magnifique scénographie de cette salle fait référence aux sacristies en Espagne. La spiritualité donne force à ce lieu. Il nous convie au silence, nous plonge dans le recueillement, la sérénité. Ce lieu est habité d'une série de portraits, des œuvres du XVIIe qui viennent en regard au Saint Thomas. Des portraits donc, la plupart en buste, souvent de trois quarts, tous monumentaux et caractérisés par des drapés remarquables. Au centre du mur de droite, notre Saint Thomas de Velasquez. Approchons-nous. Dans un format portrait de 94 sur 73 cm, une composition d'une grande simplicité, d'une grande pureté, dans une gamme colorée restreinte. Sur un fond sombre, uni, se détache un personnage. Il occupe pratiquement toute la toile. Seul, le coin supérieur gauche n'est pas envahi par la silhouette de cet homme, de ce jeune homme. Nous savons qu'il s'agit de Saint Thomas. Une inscription en haut à gauche en atteste. Elle est libellée en lettres d'or d'un vieil or qui n'a rien de clinquant. Elle se fond presque avec l'arrière-plan. Notre personnage est vu en buste de trois quarts. Il se tourne vers la gauche. Il est légèrement incliné vers l'avant. La position de son genou droit que l'on aperçoit dans le coin inférieur gauche du tableau nous laisse supposer qu'il est assis. Ce genou, couvert d'une robe de bure, se détache à peine du fond. Pourtant, notre personnage nous impose sa présence avec emphase. Il est sculptural, monumental. Cet homme, ce jeune homme, porte au-dessus de sa robe de bure un lourd manteau à capuche. Il est d'un ocre jaune, chaud, lumineux. Le contraste est saisissant avec le brun terre brûlée de l'arrière-plan. Le drapé est vertigineux, on ne voit que lui. C'est un élément crucial du tableau. Il semble incarner la fougue, le questionnement de l'apôtre. La manche, au premier plan, occupe plus d'un tiers de la toile. Elle resplendit. Elle nous entraîne dans ses plis et ses replis, dans ses ombres et ses lumières. Des légers rehauts marquent les arêtes. Des glacis gris-vert posent les ombres. Derrière le coude, quatre coups de brosse rayonnants, chargés de peinture sombre, participent à la monumentalité de cette manche. De cette manche qui, au premier plan, donne à cette toile un relief sculptural. Poursuivons. Dans sa main gauche, Saint Thomas tient une lance. Sa main est solide, mais ses doigts ne sont pas crispés. La pose est naturelle. Cette lance vient prendre appui plus haut sur son épaule gauche. Elle est tellement longue que sa pointe sort du cadre. Nous apercevons en haut à droite de la toile la naissance de sa flèche. Cette lance traverse le tableau dans une diagonale qui marque la composition. Bois et métal sont rendus avec un grand réalisme. Cette lance évoque le martyr de saint Thomas. Un autre élément capte la lumière et attire notre regard. Il s'agit d'un livre, ouvert, un livre bien épais. Nous discernons les pages qui composent sa tranche. Nous apercevons également son dos, d'un vieil or, proche de celui de l'inscription déjà évoquée. Les lanières, qui servent à nouer ensemble les deux couvertures, sont figurées avec une grande finesse. Un quart de seconde, un geste du poignet, un seul coup de pinceau, elles sont là, présentes, évidentes. Leur ondulation, les jeux de la lumière, nous sommes dans l'instant. La partie haute de ce livre émerge du manteau. Le saint Thomas le tient fermement de sa main droite, en son milieu, au niveau de la tranche fil. En partie basse, le livre vient s'appuyer sur le genou droit de saint Thomas. Là encore, la pose est naturelle. Nous sommes dans l'instant. Cette fois, les doigts sont bien serrés, comme cramponnés à ce livre. Est-il source d'inspiration? Répond-il aux interrogations, aux doutes du jeune homme? Est-ce un rempart? Approchons-nous du visage de l'apôtre. Nous y trouverons peut-être quelque élément de réponse. Si le buste est représenté de trois quarts, le visage, quant à lui, est figuré quasiment de profil. Le jeune homme est brun, son nez aquilin. Sa carnation claire est figurée dans les tons ocre, en harmonie avec son manteau, mais plus clair et parfois rehaussé de rouge. Son front est marqué par deux plis profonds. Son regard cerné, ses traits tirés, sa mâchoire angulaire, sa joue creusée, sa bouche entrouverte soulignée par une fine moustache, sa lèvre humide, exprime peut-être l'étonnement, le questionnement, le doute. Nous sommes dans l'instant. Le regard tourné vers le lointain, l'homme semble absorbé dans ses pensées. Son œil est dans l'ombre, mais en s'approchant, l'on observe encore une fois la virtuosité extrême du peintre qui n'a que 20 ans, du peintre qui a su rendre la lumière et la transparence de la pupille. Nous sommes dans l'instant, dans la poussière de Séville. Qui a servi de modèle? Certainement un personnage des rues. Ce portrait n'est pas seul. En effet, sont réunis ici pour la première fois trois tableaux considérés comme le cœur de l'œuvre de jeunesse de ce peintre. Prenons un peu de recul pour les contempler et pour essayer de comprendre le contexte de la commande. À la droite du saint Thomas, identifié par Auguste Elmayer comme étant l'œuvre de Velázquez, une tête d'apôtre conservée au musée du Prado et habituellement déposée au musée des Beaux-Arts de Séville. Il s'agit d'un fragment d'un tableau disparu. Il fait ici l'objet d'un prêt exceptionnel. La touche est tout aussi virtuose, mais plus sereine. Le portrait de cet homme à la barbe grisonnante est brossé, lui aussi, d'un geste sûr. À la gauche du saint Thomas, saint Paul. Cette œuvre, dont la paternité de Velázquez fut reconnue elle aussi par Auguste Elmayer, est un prêt du Musée national de Catalogne, situé à Barcelone. Le format est proche du saint Thomas, 95 sur 80 cm. Il s'agit cette fois de la représentation d'un homme âgé, à la barbe blanche, figuré lui aussi en buste de trois quarts, couvert également d'un grand et lourd manteau. Toute l'œuvre est dans un camaïeu de brun. Seul le visage ridé, buriné, et la main de cet homme se détachent dans la lumière. Cette œuvre, qui pourrait être la première pièce de l'apostolado, peut déjà être mise en rapport avec l'art du portrait monumental dans lequel Velázquez excellera à la cour de Madrid. Saint Paul et saint Thomas se font face. C'est une première. L'importance donnée au visage, le sens et la présence du drapé qui fait presque disparaître la figure, l'intérêt pour la construction lumineuse et spatiale, la touche rapide, le travail sculptural de la silhouette, participent à la force d'expression de ces chefs-d'œuvre. Mais pour saint Paul, tout est calme, tout est sérénité monumentale, tout exprime la figure accomplie de ce père fondateur de nombreux textes. Tout contraste avec le dynamisme et la fougue du saint Thomas, qui doute perpétuellement et malgré lui. Les deux œuvres incarnent deux personnalités bien différentes, les deux œuvres dialoguent. Nous sommes ici confrontés au sens aigu de l'observation et de l'analyse de Velázquez. Nous comprenons la multiplicité de son art. Un art influencé sans aucun doute par la sculpture, avec laquelle il entretient un rapport intime, tactile devrais-je dire, puisque dans l'atelier de Pacheco, pendant sa formation, il travaille à peindre les retables polychromés de Juan Martínez Montañés notamment. Ses personnages sont monumentaux, sculpturaux, sa maestria exceptionnelle. À ce sujet, le moment est venu de faire quelques pas en arrière dans l'exposition et de nous plonger dans cette salle entière consacrée au fer de l'artiste. Nous l'avons traversée à grands pas il y a un instant. Corentin Duri, commissaire de l'exposition, explique « On plonge dans la matière avec des photographies en gigapixels, des radiographies, des infrarouges. Tous ces outils scientifiques qui sont reproduits dans l'exposition nous livrent quelques secrets sur le geste et la technique du peintre. Sur une trame forte et serrée, habituellement réservée aux commandes prestigieuses, Velázquez suit les techniques d'encollage et de préparation décrites par Pacheco dans son ouvrage. Pacheco qui était son maître pendant cette période sévillane. Velázquez utilise l'argile de Séville, el barro sevillano, une préparation brun sombre. Il y ajoute pour peindre les chairs une couche, une imprimatura claire. Il broie ensuite grossièrement les pigments denses, peu coûteux, issus des terres. Il les dilue peu. Sa peinture opaque lui permet de travailler d'un seul jet. La couche picturale est brossée rapidement, sans hésitation. Elle est fine, mais sa capacité couvrante est importante. Le geste est ferme, l'artiste a confiance dans sa main. Une peinture sans repentir. Les études des radiographies et infrarouges exposées dans la salle témoignent de cette assurance. Les ajustements sont très peu nombreux. Ils se comptent sur les doigts d'une main et sont de l'ordre du détail, pourrions-nous dire. Je vous en cite trois. Index droit repositionné, bord du revers du livre légèrement remonté, manche droite moins large d'un centimètre. Quand on évoque la sûreté presque absolue du geste de Velázquez, on en vient à la notion de contours essentiels. Los perfiles ciertos. De quoi s'agit-il? Là encore, l'artiste nous surprend. Pour le positionnement de ses contours essentiels, il a recours à deux techniques. La première nous est dévoilée par la réflectographie à l'infrarouge. Il s'agit de bandes larges, fluides, sombres, appliquées à la brosse. Il trace ainsi un quart de cercle autour de la tête du sein pour définir un très léger halo. Cette technique intervient également dans les lignes du drapé à l'intérieur du col, ou encore dans le contour de la main gauche qui tient la lance. La radiographie, quant à elle, qui, pour la petite histoire, fut réalisée dans un cabinet d'imagerie médicale, relève d'une seconde technique. Il s'agit cette fois de véritables bourrelets de matière, de lignes apposées à la pointe d'un pinceau fin et sec, d'un matériau blanc chargé en plomb. Elles interviennent au niveau de l'arête du nez, de la main droite cramponnée au livre et de certains segments de la lance. Ces deux techniques sous-jacentes conduisent les historiens de l'art à faire des hypothèses. Il se pourrait que Velázquez compose, mette ensemble des cartons différents, des études de main, de draperies au naturel, travaillées au préalable séparément, pour réaliser ensuite une synthèse dans l'œuvre finale. Après cette plongée dans la matière, qui nous permet de mieux comprendre le geste de l'artiste, l'exposition nous offre un éclairage sur le contexte religieux et artistique dans lequel s'inscrit cette production. Les œuvres de Velázquez sont considérées comme des éléments d'un apostolado. Ce mot revient toujours. Il est temps de nous y attarder. En quoi consiste un apostolado? Pourquoi utilise-t-on un terme espagnol? Il faut remonter dans l'histoire. Dans la religion catholique, les apôtres sont considérés comme les piliers de l'Église. Ils ont pour mission de porter le message du Christ. Et dès la fin du IVe siècle, ils sont associés au credo. Leur importance en sort renforcée. Le credo, 12 articles qui résument la règle que doivent respecter les croyants. 12 articles, 12 apôtres. L'association d'un article à chacun des apôtres est attestée dès le XIIIe siècle. L'image de l'apôtre sert donc de support à la prière. Le graveur néerlandais Hendrik Goltzius nous en livre dès 1589 l'une des expressions les plus fortes. Nous pouvons l'admirer ici à Orléans. Il s'agit d'une succession de vignettes rectangulaires de petit format où l'apôtre est représenté en buste et où est inscrite la phrase du credo qui lui est associée. La diversité des figures, le sens du détail, la perfection dans la réalisation de ces représentations sont au rendez-vous. Les hachures, par leur variété et leur finesse, rendent avec justesse l'expression des visages, le volume des plis, les éléments de contexte en arrière-plan. Nous pourrions rester là des heures à nous perdre dans le détail de ces images qui ne mesurent pourtant que quelques centimètres. La gravure diffuse les modèles dans toute l'Europe et même au-delà. En peinture, c'est à El Greco que l'on peut attribuer l'invention de ce genre nouveau. Il réalisa plusieurs cycles d'apostolado. Celui d'Oviedo fut, selon toute vraisemblance, le premier. Datant des années 1585-1590, il est un témoignage exceptionnel du génie tourmenté de l'artiste. Il offre à l'observateur une interaction intense, unique, avec ses portraits expressifs et poignants, loin des stéréotypes. Plus tard, Giuseppe de Ribera, peintre espagnol qui séjourna à Rome entre 1606 et 1624, se livra également à cet exercice. Nous avons la chance de pouvoir admirer ici le Saint Matthieu de l'Apostolado di Ocartel, réalisé par Giuseppe de Ribera. Le livre, au premier plan, nous rappelle le rôle d'évangéliste de Saint Matthieu. Cette œuvre, très certainement réalisée au début de son séjour romain, fait ici l'objet d'un prêt exceptionnel du Musée des Beaux-Arts de Rennes. Les tableaux de Ribera furent très tôt diffusés en Espagne. Velázquez y a-t-il eu accès directement ou indirectement? Nous l'ignorons. Une chose est sûre, le Saint Thomas de Velázquez et le Saint Matthieu de Ribera présentent des points communs. Dans le naturalisme des apôtres qui se détachent sur un fond neutre, dans le traitement de la lumière qui baigne les figures, dans les drapés qui dévorent la composition. Le genre de l'apostolado s'inscrit dans cette dimension et se développe dans toute l'Europe occidentale. Rubens, Georges de la Tour, Simon Vouet produisent des apostolados. Mais sur la péninsule ibérique, et tout particulièrement en Andalousie, cette tradition, cette commande sérielle perdure longtemps dans les églises. C'est sans doute pour ces raisons que le terme s'est imposé en espagnol et reste utilisé aujourd'hui par les francophones et en partie par les anglophones. Les 12 apôtres, ces disciples du Christ, ces propagateurs de la doctrine, trouvent souvent place sur les piliers et les colonnes des églises. Symbolique religieuse et architecture se répondent. Vous l'aurez compris. L'apostolado, le collège apostolique, compte donc 12 personnages. et il n'est pas rare que leur soit associé le Christ Sauveur. Ces considérations nous conduisent à la question de la commande passée à Velázquez. Aucune trace. Il devrait pourtant y avoir un contrat. Il s'agit d'une commande importante qui s'inscrit dans un temps long d'exécution. Velázquez a-t-il réalisé l'intégralité du cycle pour une chartreuse à Séville? Si oui, où sont les portraits manquants? Ces questions restent en suspens. Une chose est sûre, Velázquez était très ambitieux et voulait recevoir l'ordre de Santiago. Or pour cela, il ne faut pas avoir travaillé de toute sa vie. Il n'est donc pas impossible qu'il ait fait disparaître les documents liés aux commandes qu'il aurait reçues. Ces énigmes non résolues ont obsédé et obsèdent encore aujourd'hui les spécialistes. Ainsi, Auguste Elmayer a travaillé inlassablement à la reconstitution de l'apostolado. En 1925, il tente d'y agréger le Saint Matthieu, autrefois collection Hugues Blecker. 2 ans plus tard, en 1927, Roberto Longhi envisage d'intégrer à l'apostolado initial un tableau provenant de la galerie espagnole de Philippe d'Orléans et aujourd'hui conservé à Dresde. Il s'agit de Saint Matthias. Le traitement de la lumière, des plis, de la touche sont autant d'éléments sur lesquels pourrait s'appuyer cette attribution. Mais celle-ci trouve encore une fois un faible écho chez les historiens de l'art. Pourtant aujourd'hui, l'intuition de Roberto Longhi est réévaluée. Et pour la première fois, les deux œuvres sont dans la même pièce, ici à Orléans. Elles se parlent. C'est passionnant. Définitivement, le Saint Matthias ne semble pas pouvoir être attribué à Velázquez, mais il pourrait être issu de la main de son maître, Pacheco. Et cela pourrait expliquer les liens qui existent entre les deux œuvres. D'autres énigmes restent à élucider. Celle du Saint-Philippe, par exemple, exposée un peu plus loin, confrontée lui aussi pour la première fois aux 3 portraits de Velázquez. Aujourd'hui, on ne sait pas s'il a été fait par ses élèves, en partie par Velázquez. Le débat est ouvert et fera l'objet de journées d'études en octobre. Ainsi en est-il de l'histoire de l'art. Il s'agit d'ausculter, de disséquer les œuvres, de mieux les connaître grâce aux techniques toujours plus pointues et performantes, mais il s'agit aussi de les rapprocher, de les faire dialoguer pour qu'elles nous livrent leurs secrets. C'est là la magie de cette science où mystère et investigation sont de la partie. La restauration du Saint Thomas, conduite en 2019 grâce à Pascal Grégoire de ITM Région et aux ateliers Arcane, aura nécessité une intervention d'environ 18 mois et aura permis l'étude approfondie de cette toile. Cette exposition, sous la poussière de Séville sur les traces du Saint Thomas de Velázquez, nous offre à voir une perspective éclairante sur les relations du peintre avec ses contemporains, sur les liens de l'artiste avec la Séville du début du XVIIe siècle, terre de carrefour. La confrontation avec les œuvres réunies dans l'exposition, le rapprochement des 3 œuvres actuellement reconnues comme étant de la main du maître, conforte l'idée selon laquelle cette œuvre est une production sévillane, cette œuvre est une œuvre de jeunesse, cette œuvre est un chef-d'œuvre au service d'une église, en quête d'images puissantes et convaincantes. Clarté de composition, naturalisme, dramatisation, clair-obscur, puissance des coloris, dynamisme des drapés, monumentalité du personnage, participe à la force du message. La réalité de Saint Thomas, de son expression, permet aux fidèles de s'identifier à lui. L'émotion esthétique doit contribuer au message religieux. Le Saint Thomas de Velázquez est sobre, expressif, émouvant. Nous sommes dans l'instant. Ce podcast est la trace orale de notre déambulation du mois de septembre 2021 avec l'association Un regard pour toi qui qui soutient les non-voyants. J'ai choisi pour nous accompagner une musique traditionnelle d'origine andalouse, le fandango. Elle est ici revisitée par des artistes contemporains, les trois frères Zapico. Je vous remercie pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, à très vite pour une prochaine édition. Et en attendant, je vous propose d'écouter les flâneries précédentes avec un regard pour l'art.